La volonté de Dieu, c'est que les croyants marchent dans un esprit de victoire. Et il faut que nous atteignions ce but. C'est le seul moyen de glorifier Dieu. On a plein de cantiques sur la gloire de Dieu, de glorifier Dieu. Combien de cantiques nous n'avons pas qui glorifient Dieu? Mais sérieusement, là aussi, vous voyez, par comparaison, comment une église peut-elle glorifier Dieu si elle ne cherche pas à être remplie du Saint-Esprit? Donc si nous ne marchons pas par l'Esprit, et si nous ne décidons pas de marcher par l'Esprit, bien sûr que Dieu fera reposer, je crois, sa grâce, il l'a fait. Est-ce que Dieu peut faire reposer sa grâce, même si on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Ben oui, vous savez que Dieu est notre Père et que Dieu est bon. Mais si nous ne marchons pas par l'Esprit, nous continuerons à marcher, comme dit l'apôtre Paul, plus ou moins comme des païens. Et nous serons malheureux dans notre marche avec le Seigneur. Quand nous rentrons dans la vie chrétienne, vous vous rappelez de votre début dans la vie chrétienne. Quand vous vous êtes repenti, converti, votre cœur a été rempli de joie. Oui ou non? Rempli de joie, d'espérance, nous avons découvert la grâce, la paix, le pardon, etc. Tout ce qui est lié à la repentance et à la conversion et à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, chaque dimanche, normalement, quand on prend le pain et le vin, on est reconnecté à l'œuvre de la croix et on est toujours bouleversé. J'espère que c'est un peu tout comme ça chaque dimanche. Nous avons été rassurés par les promesses. Vous n'avez pas été touchés par des promesses au début de votre conversion? J'espère que c'est toujours le cas. Mais quand même au début, c'est flagrant, on passe des ténèbres à la lumière et on est envahi par cette lumière, on découvre la joie du salut. Mais voilà, les mois passent et comme par hasard, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais on se rend compte que tout ne se règle pas naturellement. Oui ou non? Vous avez tous remarqué que quelques semaines, quelques mois après notre conversion, quand même, malgré le fait que cette joie, cette paix, ce pardon nous ait envahi et continue à nous rassurer, il n'empêche que nous avons réalisé qu'en nous, il y avait un véritable combat et que certains problèmes ne se réglaient pas comme ça. Même s'il est vrai qu'au début, certains de nos problèmes ont été réglés d'une manière formidable, nous avons bien réalisé que nos résolutions, comme on en a parlé mardi dernier, ne nous ont pas amenés à la victoire. C'est pour ça qu'on a partagé mardi volontairement ce texte, « Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans ma volonté ». Et nous avons été frustrés, nous avons été même découragés. D'ailleurs, certains ont perdu la foi parce que la joie, le pardon, cette grâce s'est comme estompée au bout de quelques semaines ou de quelques mois de conversion. Parce que malgré cette joie, je répète, ce pardon et cette paix, nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de certains de nos péchés. Est-ce que je résume un petit peu la situation comme elle se présente, d'accord? Et nous avons réalisé que aimer notre prochain, par exemple, eh bien, c'était pas toujours facile. Oui ou non? Voilà, que c'est pas toujours facile d'aimer certaines personnes. Et ça a été un petit peu le contre-coup après notre conversion que nous vivons tous. Rassurez-vous, c'est quelque chose que tous les chrétiens vivent. Nous avons prié, nous avons jeûné, certains ont été de séminaire en séminaire, certains continuent à le faire, de convention en convention, et pourtant, la victoire n'est pas là. Certains chrétiens sont tout le temps en haut, sont tout le temps en bas. Alors il y a les hauts et les bas qui sont positifs, dans le sens où ça fait quand même un montant, puis il y a les hauts et les bas où ça fait tout le temps en régressant. Vous l'avez vu ça, vous le savez. Alors, les gens sont découragés et nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est quand, hélas, comme dit Jésus, certains croient pour un temps et dès que survient une tribulation à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et nous avons tous expérimenté, et je crois que beaucoup nous en sommes là, cette parole de l'apôtre Paul, avant qu'il n'expérimente la vie de l'Esprit. On va le lire pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce sujet, Romains chapitre 7, je crois que c'est important. Il y a des choses qu'on verra petit à petit. Je vous demande peut-être de noter ces versets, malgré le fait que ce sera enregistré. Si vous n'écoutez pas les enregistrements, peut-être vraiment d'y réfléchir. L'apôtre Paul, dans le chapitre 7, résume la vie sans la puissance du Saint-Esprit, en fin de compte. Voilà. Le chapitre 7, il exprime ce combat dans la chair que je suis en train de vous résumer. L'apôtre Paul, Romains 7, 24, va dire... Ce que nous avons dit ou ce que nous sommes en train de vivre, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est une question. C'est une question qu'il pose, il la pose, c'est dans la Bible, c'est sérieux, ça exprime le combat que nous avons après le fait d'avoir été sauvés, le combat qu'il a, mais comment ça se fait, je n'arrive pas à vivre cette vie de l'esprit. C'est exactement ça qui se passe. En plus, lui, il a eu la joie de pouvoir ajouter la suite. Il a eu la joie quand même de pouvoir dire « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Allez, par Jésus-Christ, rappelez-vous toujours, c'est par Christ, en lui, par l'Esprit. Il a pu rajouter cette parole de victoire, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Mais tant qu'on n'a pas découvert ce qu'était vraiment la marche dans l'Esprit, on en est à la première partie du verset, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et c'est pour cela que nous allons faire toutes ces études, que vous allez prier pour moi, que nous allons vraiment demander au Saint-Esprit de nous conduire pour réformer nos voies. Et j'aimerais bien que quelques-uns disent Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est important? Voilà, moi je suis persuadé, j'ai honte, hein, je vous le dis, vous me connaissez, ça fait 14 ans que vous m'écoutez, pour certains, j'ai honte, je ne veux pas verser des larmes, mais je vais vous dire, j'ai honte. Parce que je sais que si les pasteurs n'entrent pas dans la vie de l'esprit, ils ne pourront pas entraîner l'Église dans la vie de l'esprit. Et c'est un scandale pour l'Église. Si nous les pasteurs, par exemple, si un pasteur n'enseigne pas des pasteurs en formation à rentrer dans la vie des esprits, c'est un péché que nous commettons. Dans une école biblique, si on n'enseigne pas la vie de l'esprit, c'est un scandale. Parce que les pasteurs doivent comprendre la vie de l'esprit pour entraîner l'Église dans la vie de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important. La bénédiction, le salut, les victoires, les délivrances, les guérisons, les repentances, le retour des fils prodigues, tout est lié à la vie de l'esprit. Jésus, malgré le fait qu'il était saint, parfait, impeccable, il n'avait jamais péché, il a dû être rempli du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Alors vous croyez bien que on ne va pas être meilleur que lui, puisqu'il est dit « tout disciple accompli sera comme son maître ». Et un chrétien, un pasteur, une église qui chercherait à vouloir faire l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit, il pourrait s'autoriser à dire qu'il est meilleur que Jésus. Oui ou non? Ben oui, c'est obligé. Vous pouvez le tordre comme vous voulez. Un chrétien qui veut dire « moi je vais faire la volonté de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit », eh ben, il est meilleur que Jésus. Là, par contre, c'est une façon de parler, bien entendu. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il va nous bénir dans cette démarche. Ça va nous coûter, défricher un champ, ça coûte beaucoup, en fonction des épines, en fonction des ronces, en fonction des cailloux, ça peut demander beaucoup de travail. Vous êtes d'accord? Mais si on est prêt à payer le prix, croyez-moi, le Seigneur nous aidera. Si le Seigneur nous parle de ce sujet, c'est qu'il veut le faire. S'il nous parle de ce sujet, c'est qu'il va nous aider. C'est que c'est une promesse et il va l'accomplir. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est plutôt l'inverse, de continuer à vivre dans la chair qui devient impossible à vivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors que quand on veut vivre dans la vie de l'esprit, on est véritablement encouragé, on a une approbation intérieure. Et je suis sûr que même alors que vous êtes en train d'écouter cette prédication, si vous êtes d'accord avec ce que je partage, il y a dans votre esprit une approbation intérieure qui vous encourage dans cette voie. Vous savez que c'est la voie de Dieu, la voie royale dont parle l'apôtre. Il n'y a qu'une voie, c'est la voie où l'Église va dire « oui, on va réformer les voies ». On est peut-être l'Église de Pentecôte, eh bien soyons honnêtes, on n'a presque plus rien de la Pentecôte. On peut le dire devant Dieu? Vous croyez qu'il vaut mieux pas être honnête jusqu'au bout, hein? Et voilà, Seigneur, c'est bien joli, la Pentecôte. Quand j'entends une due des fois dans des conventions qu'on était les meilleurs. Mon Dieu, quelle honte. Quelle honte, les meilleurs. Sinon, c'est de l'orgueil. Meilleur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Dans mes moments de culte personnel, que je puisse en être à cette confession. J'en suis peut-être au chapitre 7, mais je vais passer au chapitre 8. Misérable que je suis. Je me sens misérable, j'ai pas fait... c'est pas de l'autoflagellation, c'est pas de l'apitoiement. Non. C'est une question honnête de dire oui, je ne suis pas comme Dieu le voudrait, mais Dieu va m'aider. C'est pas plus compliqué. Si nous sommes dans cette phase, misérable que je suis, qui me délivrera, c'est pas compliqué à comprendre. Ça veut dire que nous marchons par la chair. Nous savons que nous devrions marcher par l'esprit, mais nous n'y arrivons pas. Le grand apôtre Paul l'a expérimenté. Et Dieu a voulu que cela soit consigné pour que nous comprenions que nous passons tous par la même étape, malgré le ministère de l'apôtre Paul, malgré l'appel de l'apôtre Paul, il est passé par cette expérience où il a essayé de faire l'œuvre de Dieu par ses propres forces, et il a fait que ce constat. Mais voilà, il ne faudrait pas en rester au chapitre 7 toute la vie. Le problème, ça serait ça, c'est qu'on en reste toute notre vie au chapitre 7 de l'épître de Paul aux Romains. Alors, on le sait, on a fait des efforts, on a fait ci, on a fait là, on n'y arrive pas. Mais croyez-moi, si Dieu nous parle d'une vie de victoire, c'est que c'est possible. Alléluia. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Oh, c'est aussi une bonne nouvelle de se reconnaître misérable, après tout. Vous ne croyez pas qu'il vaut mieux se dire misérable que je suis, plutôt que de dire je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tout va bien, on a des sous, et ceci, cela. Vous savez, il vaut mieux dire merci pour les grâces que tu nous donnes. Mais merci de me montrer que je suis misérable. Merci. C'est une bénédiction. Moi, j'en suis convaincu que quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous reprend sévèrement, c'est une bénédiction. Dieu reprend et châtie tous ceux qu'il aime. Si vous n'êtes plus repris par Dieu, si vous n'êtes plus châtié par Dieu, vous pouvez penser que vous êtes dans un grand état spirituel loin de Dieu, croyez-moi. Donc Dieu nous parle de victoire, c'est possible. Alors, combien parmi nous, on pourrait faire un sondage, on ne va pas le faire, mais combien dans l'église de Sainte-Agne, combien dans les églises de Toulouse, combien en sont là, en souffrance, parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette vie de grâce, à cette vie de victoire. Alors, c'est le but de ces études. C'est vrai que mes introductions sont un peu longues, mais je me dois de le faire par rapport, je pense, à tous ceux qui écouteront également ces prédications. Oui, marcher dans l'esprit du Seigneur. Bon, vous êtes d'accord avec moi, sur le bois de la croix, quelle a été l'avant-dernière parole du Seigneur Jésus-Christ? Tout est accompli. Cela veut dire qu'il a tout préparé. Tout préparé. Et il voit surtout, ce soir, dans toutes les églises du monde, car il y a des réunions partout, il voit dans les églises ceux qui ont soif. Il vous voit, il voit tous. Vous qui êtes convertis depuis 3 mois, vous qui êtes convertis depuis 50 ans, il voit. Il voit quelle est la soif dans votre cœur. Il voit celui qui dit « Oui, je suis d'accord, il faut que je me réforme. Ça va me demander beaucoup de travail, mais je ne veux plus accomplir les œuvres de la chair. » Vous êtes d'accord? Amen. On est dans Galates, hein? Ah non, Romain. Galates, on revient à Galates 5. On va voir quand même certaines choses. Il faut qu'on nous comprenne, parce qu'il y a des nouveaux parmi nous. Ça ne va pas être facile pour vous, parce qu'on aborde un sujet qu'on ne peut comprendre que quand on est né de nouveau. C'est peut-être une raison pour laquelle nous, les pasteurs, je ne veux pas me faire l'avocat des pasteurs, mais c'est peut-être une raison pour laquelle nous n'avons pas souvent abordé ce sujet. C'est parce que dans nos églises, on a plein de gens qui ne sont pas nés de nouveau et ne peuvent pas comprendre ce sujet. Mais ça ne fait rien. Si Dieu me pousse à aborder ce sujet, il faut le faire. Voilà. Galates 5, verset 19. Si vous ne comprenez pas ce sujet, je vous rassure, c'est normal. Croyez-moi, c'est normal, je vous expliquerai pourquoi à la fin, quand vous viendrez me voir. Galates 5, 19, je suis sérieux. Alors, on a lu tout à l'heure, on va lire à partir du verset 16. On a lu tout à l'heure, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Pardon. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Donc ce texte, il y a des choses déjà difficiles à comprendre, on y reviendra plus tard parce qu'on ne peut pas tout voir, mais marcher par l'esprit, quand on voit ces deux textes, enfin ce texte, ces deux oppositions dans ce texte, on se rend compte qu'il faut faire disparaître certaines choses. D'accord avec moi ? Déjà, quelqu'un qui veut comprendre ce que c'est que marcher par l'esprit, il dit voilà, il y a des choses à moi qui correspondent justement à ces mauvaises œuvres. Ce sont les œuvres de la chair, il faut que certaines de ces choses disparaissent, on va voir comment elles vont disparaître. Parce que c'est pas avec nos résolutions qu'on y arrivera. Pour que se manifeste le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit ? Eh bien, ce n'est plus ni moins que le caractère de Jésus-Christ qui transparaît au travers de notre vie. Voilà ce que c'est le fruit de l'esprit. C'est la grâce de Jésus-Christ qui transparaît, qui se manifeste au travers de nous. Et toutes nos difficultés viennent de l'action de la chair. On va expliquer. La chair, ce n'est pas la sexualité. Il y a des gens qui vont... Toujours quelqu'un qui m'a dit dimanche, oh oui, la chair, c'est les problèmes sexuels. On va voir que la chair, ce n'est pas les problèmes sexuels. Vous voyez comment les gens, des chrétiens, pensent. Comme quoi, ce sujet, ça vaut peut-être la peine de bien l'expliquer. La chair, c'est tout ce qui est contraire à l'esprit. Tout ce qui est de l'âme et du corps, on l'expliquera, qui n'est pas régénéré, qui n'est pas dominé par l'esprit. On l'expliquera certainement dimanche, parce que là, je ne veux pas mélanger les choses ce soir. Mais pour expliquer que dans les églises, toutes les difficultés, les églises, les familles, les foyers, dans les corps, dans les cœurs, viennent de cela. C'est que c'est la chair qui prend le dessus. Parce que on n'a pas appris à marcher selon l'esprit. On n'a pas expliqué ce que c'était marcher selon l'esprit. On a amené les gens à parler en langue, et ça, il le faut. Il faut qu'il y ait cette communion avec l'esprit, parce que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et je crois qu'il ne faut pas non plus négliger cet aspect du parler en langue, des dons spirituels. C'est très important que dans une église, le cœur des pécheurs soit dévoilé lorsqu'ils entendent une prophétie. Toutes ces choses. Mais ce n'est pas que ça, la marche par l'esprit. Et avouez que dans beaucoup d'endroits, la marche par l'esprit, ça s'est résumé au parler en langue et au don spirituel. Et je pense que c'est une grosse erreur, croyez-moi. C'est pour ça que je me prépare devant Dieu à vous expliquer toutes ces choses. Combien de chrétiens, par exemple, rendent Satan responsable de tous leurs problèmes ? Quelque chose ne va pas, c'est le diable. C'est le démon. C'est grave ça. Parce que je peux vous dire que le diable, il ne pourrait rien faire s'il avait en face de lui des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Parce que vous savez, regardez, on a parlé des œuvres de la chair, il ne cite pas la colère. La colère, c'est dans les Éphésiens. La colère, c'est des œuvres de la chair. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Donc, ce sont les œuvres de la chair qui ouvrent la porte, puisqu'il est dit de ne pas accès. Un accès, c'est une porte. Par une porte, on a accès à la pièce d'à côté. Et le problème, il est là. Et c'est facile de dire, oui, c'est le diable. J'avoue que le diable y est souvent pour beaucoup de choses dans nos combats spirituels. Ça, je le sais. Mais je crois pouvoir dire qu'un chrétien qui est rempli de l'esprit, il a fermé la porte au diable. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole, pour les chrétiens qui résistent au diable? Qu'est-ce qu'il est dit? Si on résiste au diable, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Que dit l'apôtre Jean? Regardez, parce que ça quand même, ça me turlupine. Les églises qui ont foncé à fond dans la délivrance des démons, on en reparlera de ça plus tard, parce qu'il faut l'incorporer dans le sujet. Mais laissez-moi vous dire qu'on a tout mis, on a tout mélangé, et les chrétiens sont dans la confusion. Mais regardez ce que dit l'apôtre Jean, par exemple. 1 Jean, chapitre 2, verset 12. C'est important de comprendre ces choses. Parce que laissez-moi vous dire que dans une église où on marche par l'esprit, c'est le diable qui est à la porte. Croyez-moi. Jean, chapitre 2, verset 12. Il parle aux petits-enfants. Les petits-enfants, ce n'est pas les 4 ans de la nurserie, de la garderie ou de l'école du dimanche. Les petits-enfants dans la Bible, ce sont les nouveaux convertis. Regardez comment Dieu parle aux nouveaux convertis. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que, comment vous avez dans votre Bible? Parce que vous avez vaincu le malin. Ce sont les jeunes chrétiens, ça, les jeunes qui sont nouvellement convertis également. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voilà, voyez, c'est pour ça que j'ai pris le texte de Galates, l'opposition entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Regardez un peu plus loin, 1 Jean 5, 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et même si au verset 19, il nous est dit que le monde entier est sous la puissance du malin, écoutez, regardez les informations, regardez quelques émissions parfois à thème, et vous verrez que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais un chrétien qui marche par l'esprit, le malin ne le touche pas. Amen. Et je crois que ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment comprendre. Quelqu'un qui marche par l'esprit, il ferme la porte et le diable, il fuit. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'apprendre à marcher selon l'esprit, en vérité, voyez, moi je me sens confus parce que c'est peut-être la première chose que j'aurais dû faire en arrivant dans l'église il y a 13 ans et demi. Mais je suis sûr, à la vue de ce que je suis en train de vivre en ce moment, de lire, de partager, de méditer, je suis sûr que apprendre à marcher selon l'esprit devrait être de suite le but de tout chrétien qui vient de se convertir. Vous croyez pas? Dès qu'un homme passe des ténèbres à la lumière, ça devrait être la responsabilité des pasteurs, des anciens, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? D'enseigner les nouveaux convertis à marcher selon l'esprit. Est-ce qu'on peut y travailler à ça? De manière très intelligente, voilà, d'amener les jeunes, il y a plein de jeunes qui veulent prendre le baptême. Eh bien, notre devoir, c'est de vous amener à marcher selon l'esprit. Jérémy, mets la ventilation, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi ici, j'ai chaud. Quand il n'y a pas la ventilation, moi je le sens, je vous le dis. Excusez-moi. On l'a vu dimanche en introduction. Pourquoi Dieu a-t-il donné des pasteurs? Vous vous rappelez? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Pour le perfectionnement des saints, pour l'unité de la foi, pour être amené à l'unité, à la stature parfaite de Christ, à la ressemblance avec le Seigneur. Les pasteurs, ils ont été nommés par Dieu, pour amener le perfectionnement des saints. On n'est pas là pour vous faire des œuvres, pour vous dire, voilà, on va créer un ceci, du travail social, tout ça. Moi, j'ai peur, mes frères et sœurs, que parce qu'on n'a pas voulu la vie de l'esprit, on est obligé de choisir tout un tas de palliatifs qui ne sont que le change à une vie extraordinaire qu'on aurait dû recevoir. Que c'est dommage, que c'est triste, que j'ai honte, que c'est triste que ces choses ont été négligées. Vous me pardonnez? On devrait avoir honte. Il faut demander pardon. Parce qu'on ne doit pas négliger la chose la plus importante dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mes frères et sœurs, que vous puissiez prier pour les serviteurs de Dieu. C'est la chose la plus importante aujourd'hui à redécouvrir, que c'est triste de voir tous ces bergers qui ont empêché ces choses, dont je dois en faire partie en plus. Que Dieu nous garde de chercher des activités pour masquer le problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien, si les activités, ça on le verra aussi, sont le prolongement de la vie de l'esprit, c'est très bien. D'accord avec moi? Ce que l'on fait pour le Niger, c'est quand même le prolongement de quelque chose qui se passe dans l'église, je veux dire. Tout cet argent, tout ce qu'on a fait, c'est un effet de la grâce de Dieu. Mais c'est quand même le prolongement de la vie de Dieu dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça ne peut pas être plus clair. On l'a vu dimanche, il a donné les uns comme pasteurs, etc., pour le perfectionnement des saints, pour l'unité de la foi, pour la connaissance du Fils de Dieu, pour arriver à être des hommes faits, pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut le faire, mais ce qui se passe, c'est qu'il l'a déjà fait. Parce que ce que Dieu veut que nous soyons, il nous l'a déjà donné, mes frères et sœurs. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, parce que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont exactement. Je voudrais vous laisser quelques versets pour que nous comprenions ce que nous sommes. Les chrétiens, voyez, des fois, même les chrétiens, des fois, ils cherchent Dieu dans le sens où comme si Dieu n'était pas avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Dieu est en vous? Ah oui. Il n'y a pas besoin de le chercher, il faut chercher sa face. Mais en vérité, il n'y a pas à chercher Dieu. Il est toujours avec vous. Il est en vous. Voyez ? 1 Jean chapitre 3, verset 2. Alors, on va voir quelques textes. C'est important pour comprendre la marche par l'esprit, de la même manière que dimanche, il fallait que j'explique que pour comprendre la marche par l'esprit, il faut être né de nouveau. Imaginez-vous si je vais dans une église où personne n'est né de nouveau et que je fasse une étude comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre ? Rien. Et je le répète, si vous comprenez rien, je vous assure, ce n'est pas que je prêche mal, c'est que vous n'êtes pas converti. Je vous le dis pour faire vite, parce que c'est important que vous le compreniez. Ce n'est pas, j'ai certainement des fois prêché pas comme il fallait, mais là je vous avoue que si vous ne comprenez pas, c'est très important, c'est que vous ne réalisez pas ce que c'est la nouvelle naissance. Bon, la nouvelle naissance, on l'a classée, maintenant on va voir ce que nous sommes quand on est en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes, alors, maintenant enfants de Dieu. On ne le sera pas, on l'est déjà. Il faut le comprendre, ça. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous serons semblables à Jésus. On ne sera pas des clones. Ça, je l'expliquerai. Dans le ciel, personne ne se rassemblera. Il y a des gens qui pensent qu'on sera tous des clones, que les clones de Jésus. N'importe quoi. Ça serait triste. Non, on sera tous différents. Il y a 200 000 chrétiens qui sont parfaits en Christ. Les 200 000 sont complètement différents. Heureusement qu'on ne sera pas des clones. Bon, ça, c'est autre chose. Ce que nous sommes maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Quand un chrétien, quand un païen accepte Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu. Il est héritier. Il faut que vous le compreniez. Si vous vous êtes repenti et converti, vous êtes héritier de la grâce. Christ est en vous. Vous ne le sentez pas parce que peut-être il est emprisonné, parce que la chair a tellement pris le dessus qu'il est étouffé en vous. C'est ça le grand problème. Mais Christ est en vous. Et cette semence en vous contient toute la plénitude divine. Mais il faut que cette plénitude qui est dans notre esprit puisse se manifester. Cette plénitude, nous l'avons à notre conversion. Cette semence, nous l'avons. Quand nous nous convertissons, nous recevons Christ et nous recevons le Saint-Esprit. Et il faut veiller, c'est tout ce qu'on va voir, à comprendre que les conditions soient respectées pour justement voir le Saint-Esprit se manifester. D'après vous, vous l'interprétez comment ça? Si le Saint-Esprit venait vraiment à se manifester dans l'Église, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous pensez qui se passera? Vous ne croyez pas qu'il va s'en passer de belles choses, de bonnes œuvres que Dieu a préparées? Voilà. Alors, c'est intéressant, je vois que le retourne, de noter que chaque fois que la Bible parle de l'œuvre de Christ en nous, de notre position, elle en parle au passé ou au présent, pour bien nous montrer que ce sont des choses que nous avons reçues. Nous l'avons reçu. Ce que Dieu voulait nous donner, il nous l'a donné. Alors, quelques lectures. Éphésiens chapitre 1er. Il faut les lire. Je vous conseille d'abord, si vous voulez comprendre quelle est votre position en Christ, de méditer les trois premiers chapitres de Paul aux Éphésiens. Les trois premiers chapitres nous parlent de notre position en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Vous remarquerez, je le répète, c'est conjugué soit au présent, soit au passé, pour qu'on comprenne bien que nous l'avons reçu. On l'a lu, nous sommes maintenant fils de Dieu. Éphésiens 1, 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Là déjà, on comprend que les bénédictions, elles sont dans les lieux célestes. Et la chair, est-ce que la chair peut accéder au royaume de Dieu?
Non.
Bien sûr. On va le voir prochainement. La chair ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. C'est pour ça que tout ce qu'on fait par la chair ne servira à rien. Nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Il nous a bénis de toute bénédiction. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alléluia. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus héritiers. Nous sommes prédestinés. Vous voyez, c'est conjugué ou au présent ou au passé. Éphésiens 2, verset 4. Le mieux, c'est que vous méditiez les trois premiers chapitres. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités. Vous avez vu ? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vous lirez ces trois chapitres et vous verrez, c'est tout le temps conjugué de la même manière. Il nous a conduits, il nous a rendus à la vie, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes sanctifiés, il nous a déjà amenés à la perfection. Dieu nous voit déjà parfaits. Nous, ça nous dépasse tout ça. Mais à nous, toute la puissance divine, elle y est. Mais peut-elle se manifester ? Eh bien non. Et c'est ce qu'il faut vraiment que nous comprenions, mes frères et sœurs. Quand la Bible dit « vous avez été guéris », est-ce que vous croyez que Dieu a tout accompli à la croix pour qu'on soit guéri ? Oui, c'est écrit, vous avez été guéri. Et tous ces textes, on pourrait en prendre plein, nous montrent que tout a été accompli. Ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà reçu. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous possédons en Jésus-Christ tout cet héritage spirituel. Et cet héritage, il ne se manifeste pas par l'intelligence, il ne se manifeste pas par la puissance, par l'argent, par le nombre, il ne se manifeste pas, je ne sais pas moi, par tout ce que vous voudrez, il se manifeste par l'esprit. Est-ce que vous comprenez mieux ? L'héritage spirituel qui est déjà dans notre esprit, par la puissance du Saint-Esprit, ne peut que se manifester par l'esprit. Par la foi, bien sûr, ça vous le savez, mais par l'esprit. La foi, je crois qu'on l'a, on ne serait pas là si on ne l'avait pas. Donc, méditez ces trois premiers chapitres. C'est important pour la vie de l'esprit. Je vous assure, c'est important. Vous voyez, quand on parle de la vie de l'esprit, allez, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Mais croyez-moi, comprendre sa position, c'est important. Vous lisez ces trois chapitres, 21 fois, il est écrit, ou en Christ, ou en Jésus-Christ. 21 fois, pour que nous comprenions bien que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par lui. Et le grand problème, c'est l'ignorance. L'ignorance des pasteurs, dont j'ai peut-être fait partie, et l'ignorance, bien sûr, des chrétiens. Si nous ignorons ces choses, nous n'allons pas les saisir. Si vous saviez que vous avez 300 000 euros sous le lit et que vous ne le saviez pas. Mais vous rendez compte ? Imaginez-vous. Regardez quand même en rentrant à la maison. Hein ? Et ça, c'est un problème, l'ignorance. Hein ? Non, je vois que vous suivez. Bon. Mes frères et sœurs, la chair, on va l'expliquer, tout ce qui est contraire à l'esprit, il faudra bien que je vous l'explique, ne peut pas amener la victoire. Au contraire, elle nous fait sortir de la victoire. La chair empêche la victoire. Dès qu'un chrétien retombe dans la chair, oui, il va sortir de la victoire. Et ça, c'est le véritable problème. Et nous essayons de faire l'œuvre de Dieu avec la chair. Donc, quel aveuglement! Quelle misère! Vous comprenez pourquoi Dieu peut nous donner ce verset? Réformez vos voies, défrichez-vous un champ nouveau. La chair ne fera que nous éloigner de la vie de l'esprit. Alors nous avons plein de promesses. Seigneur, illumine mes yeux. Est-ce que vous pouvez prier cette semaine dans ce sens? Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux savoir ce qu'est la vie de l'esprit. Je veux savoir ce que sont les œuvres de la chair. Je veux comprendre. Je ne veux pas que cette vie spirituelle soit bloquée en moi. Et c'est ça le problème. Et moi, je le ressens profondément, que cette vie spirituelle, elle est bloquée en nous. Alors, on a la foi, mais la foi, quand même, elle vient de ce qu'on entend. Qu'un chrétien a peur du diable, c'est bien la preuve qu'il ne lit pas la parole de Dieu. Quand même, est-ce que Dieu est pas plus grand que le diable ? Vous voyez, quand on en est là, c'est qu'on n'est plus dans la superstition que dans la foi. À la nouvelle naissance, qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle naissance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous assure, moi, je me rends compte, peut-être poussé par l'Esprit de Dieu, qu'il faut revoir toutes ces choses. Je répète, comme elles seront enregistrées, ça permettra à des chrétiens qui ont soif de reprendre ces études et de les méditer. Mais on va lire trois textes qui nous parlent de ce qui se passe à la nouvelle naissance. Parce que pour beaucoup de gens, la nouvelle naissance, c'est ils ont pris le baptême, ils étaient catholiques, et bien ils sont évangéliques. Mais pour beaucoup, c'est ça. Vous savez, c'est ça. J'exagère un peu, mais c'est ça. Voilà, ils priaient la Vierge, ils priaient les morts, ils ne prient plus la Vierge, ils ne prient plus les morts, parce que ça, c'est pas bien, c'est vrai, c'est des abominations. Voilà, ils prient que Jésus, voilà, ça s'arrête là. Mais c'est pas ça du tout, c'est pas que ça. Colossiens chapitre 1er. Mes frères et sœurs, il faut que ça passe par là. Ça va être un peu long, mais ça vaut la peine. Vous savez, défricher un champ de plusieurs hectares, ça prend du temps. Mais ça vaut la peine parce que Dieu nous approuvera et Dieu nous bénira. Et vraiment, priez pour ça, mes frères et sœurs. Colossiens, chapitre 1er, Verset 12 à 14. Regardez, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous comprenez bien que ça aussi, ça ne sera que par l'Esprit de Dieu. Hein? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Mes frères et sœurs, quand on passe par la conversion, on est délivré de la puissance des ténèbres et on est transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 2, verset 13. Quand j'entends un chrétien qui me dit « Oui, vous savez, depuis que je suis chrétien, c'est pareil qu'avant. » Écoutez, c'est grave. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Il nous a transportés des ténèbres à la lumière. On est dans son royaume. Et ça, c'est sûr que quelqu'un de charnel, il est toujours dans la chair, il est toujours sur terre. Il n'a pas son esprit connecté avec ces choses spirituelles. Colossiens 1, 13 à 15. 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Amen. Voyez ? Quand quelqu'un devient une nouvelle naissance, il était mort et il est devenu vivant. Et l'acte qui nous condamnait a été effacé. Vous connaissez cette parole, celle qu'on connaît le plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des choses à changer encore. Même si tout est devenu nouveau, c'est bien la preuve qu'on vit encore avec notre âme. Si les choses ne sont pas devenues nouvelles, c'est qu'on vit toujours comme avant. Donc on vit avec notre âme et non pas avec notre esprit. Ça aussi, ce sera le sujet d'une autre méditation. À la nouvelle naissance, l'homme naturel qui appartient à Satan. Il ne faut pas oublier que depuis la chute, le monde a été livré à Satan. C'est l'homme qui l'a relivré à Satan. Ça, c'est notre problème à nous, ça. C'est notre faute à nous. Donc Satan fait partie, vous le savez, du royaume des ténèbres. Et sans que nous nous en doutions, nous étions dans les ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? On l'a lu. Nous étions dans les ténèbres et à la nouvelle naissance, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous étions dans les ténèbres, notre esprit était coupé de Dieu, il était mort. Il était soumis, comme dit l'apôtre, on l'expliquera, à la loi du péché et de la mort. Mais lorsqu'on s'est converti au calvaire, notre esprit est devenu vivant par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est vraiment une nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, il le sait. Amen. Voilà. Mais il y a des chrétiens, je suis affligé parce que c'est notre faute. Ce n'est pas la faute des chrétiens. Des chrétiens charnels, c'est notre faute, j'en suis conscient. C'est pour ça, ne prenez pas ombrage de certaines de mes paroles, parce que s'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est notre faute. Alors je vais vous dire, on en est confus et honteux, et il faudra s'expliquer devant Dieu certainement. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est grave. Parce que vous ne pourrez pas rentrer dans cette vie de l'esprit. Et moi, je veux m'y appliquer. Je vais vraiment travailler le temps qu'il faudra avec beaucoup de joie et de cœur. Mais mes frères et sœurs, nous avons un esprit vivant. L'Esprit de Dieu est en notre esprit et il va se manifester dans la ville de Toulouse parce que nous allons y travailler. Et cet esprit que nous avons reçu, il est saint. L'esprit qui est en nous, il est saint, il est vivant, il est à l'image de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui est avec nous. Nous étions perdus, on le dit dans l'évangélisation, et nous sommes sauvés. Et par sa mort et par sa résurrection, Christ nous a donné la vie éternelle pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. À la nouvelle naissance, notre esprit devrait être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon, après, l'histoire du corps et de l'âme. En fait, est-ce que notre corps sera un jour complètement restauré? Est-ce que c'est écrit? Parce que vous savez, c'est un problème ça. Pour beaucoup, on en a parlé hier, pour beaucoup de gens, il n'y a que la spiritualité de l'esprit. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas que la rédemption de Jésus touche notre corps, notre âme et notre esprit. Et qu'un jour,
notre corps, notre âme et notre esprit recevront l'immortalité, car justement la chair et le sang ne peuvent hériter l'incorruptibilité. Voyez, ça prouve bien que la chair et le sang, c'est pas possible, ça ne peut pas avoir accès aux choses spirituelles. Mais notre corps, un jour, sera entièrement glorifié. Gloire à Dieu, plus de rhumatisme, c'est fini. Alors quand la Bible parle du vieil homme, elle parle... Alors je termine avec ça, je vois que le retour, mais il me faut quand même conclure. Il me faut le dire. Quand la Bible parle du vieil homme, vous savez, la Bible parle du vieil homme, on y reviendra parce qu'on va pas prendre la lecture, elle parle de la partie de notre être, justement, qui n'a pas été changée. Il y a un vieil homme en nous, c'est ce qu'on va voir. Et c'est lui qui veut toujours diriger. Et c'est lui qui veut toujours commander. Mais si un jour il sera glorifié, tant qu'on est sur la terre, le vieil homme, il y est. Il faut se le trimballer toute la vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi Dieu l'a voulu ainsi? Eh bien écoutez, c'est comme ça. Mais l'apprentissage de la vie dans l'esprit consiste à apprendre Christ, à apprendre à le connaître à lui. Et ce n'est que par la grâce. Je vous demande vraiment de prier peut-être pour dimanche, parce que peut-être j'articulerai, comme il y a toute l'église, entre le matin et l'après-midi, sur ce sujet beaucoup plus pointu. Là, on a vu ce que nous sommes en Christ, qu'il va falloir se débarrasser de certaines choses, mais qu'on ne peut pas le faire avec nos propres forces. C'est là le problème. C'est là où les chrétiens se trompent et se découragent, c'est qu'ils essayent de le faire par leurs propres forces. Et ça, ça nous décourage. Oui, mes frères et sœurs, on va résumer, parce que l'heure tourne, avec cette parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà mes frères et sœurs, ce que nous sommes quand nous sommes chrétiens. Je vous encourage à réécouter ces choses, c'est sérieux, on va aller loin mes frères et sœurs. On va aller beaucoup plus loin, vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit? Est-ce que c'est clair? Je sais que pour ceux qui sont pas nés de nouveau, c'est très confus. Vous avez peut-être pensé que je prêchais dans une autre langue. Non. Mais je vous assure que c'est sérieux. On ne peut pas rigoler avec ça. L'avenir, le salut de nos enfants, le retour des rétrogrades, la guérison des malades, la bénédiction sur les familles, sur les couples, la conversion des pécheurs, l'évangélisation, l'édification de l'Église, tout ce que vous voudrez ne peut que passer par la vie de l'Esprit. Alors, travaillons-y. Vous êtes d'accord? Si un soir je ne prêche pas sur la vie de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit me conduit peut-être à autre chose. On va pas, je ne vous dis pas forcément qu'on le fera toutes les réunions, mais que Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit nous conduise. Cherchons ces choses, méditez l'Épître aux Éphésiens, et je crois que le Seigneur va nous bénir, mes frères et sœurs. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons voir ta gloire. Et nous le savons que la chair ne peut pas accéder au royaume. Nous le savons que tout ce qui est humain et charnel ne peut accéder aux choses célestes. Seigneur Jésus, conduis-nous dans cette étude. Conduis-nous dans ce défrichage. Que vraiment ce chant soit nouveau pour toi. Que cette église ressemble à un chant défriché où les voix seront réformées, où ta puissance pourra se manifester. Nous te confions nos vies, cette assemblée, tous les chrétiens. Nous te confions, Seigneur, les prochaines études. Nous te demandons de travailler nos cœurs, de nous aider à enlever les ronces, à enlever les épines, les pierres, tout ce qui pourrait entraver la semence de jaillir et de rentrer dans la terre. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons pardon pour toutes les années perdues. Tu vois les années que nous avons perdues. Tu nous dis dans le prophète Joël que tu nous remplaceras les années que nous a volé la sauterelle. Et nous le croyons que tu n'es pas un Dieu dur, tu n'es pas un Dieu mauvais. Tu es un Dieu plein de bonté. Oui, tu redonneras les années que nous avons perdues. Seigneur, mais s'il te plaît, suscite la soif. Et lorsque les choses charnelles nous envahissent, libère-nous, Seigneur, et donne-nous cette victoire sur les choses charnelles, que nous sachions véritablement voir cette grâce envahir l'Église, envahir les foyers, les maisons. Oh, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ne pas avoir compris ces choses plus tôt, pour ne pas les avoir présentées à l'Église. Seigneur, mais comment aurais-je pu les présenter si je ne les avais pas réalisées? Seigneur, pardonne-moi, vraiment du fond du cœur, afin que nous ne perdions plus de temps, mais que cette année 2012, cette ville soit visitée. par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous te le demandons de même cœur. Pardon, pardonne-moi, conduis-nous, Seigneur, à réformer nos voies. Oui, Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui l'ont fait dans les siècles passés et qui ont amené la bénédiction sur notre pays. Eh bien, nous voulons le faire, non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de ton nom. Et tout simplement parce que c'est ta volonté que l'Église connaisse une visitation du Saint-Esprit. Prépare les chrétiens de dimanche également. Tu vois tous ceux qui ont une vie tiède, une vie superficielle. Nous voulons les bénir, nous voulons les aider, Seigneur. Et donne-nous aux anciens, aux pasteurs, à chacun d'entre nous, aux diacres, aux diaconesses de l'Église, donne-nous d'amener cette vie de l'Esprit sur tous les bien-aimés, les enfants, les ados, les jeunes. Oui, Jésus, nous voulons voir ta gloire. Nous le chantons, mais combien de fois nous n'avons pas réalisé que sans cette vie de l'Esprit, nous ne verrions rien du tout. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.